Il est 13h05 minutes. Eh bien, on parle beaucoup de chirurgie esthétique aujourd'hui, tout particulièrement de ce fameux dossier où des milliers de femmes pourraient porter des prothèses mammaires nocives pour leur santé. Si on refait un peu l'origine de cette histoire, le 18 décembre dernier, l'Agence française pour la sécurité des médicaments et des produits médicaux a procédé au rappel de ce qu'on appelle des prothèses mammaires texturées d'une compagnie en particulier là qui s'appelle Allergan, en raison des risques élevés que pourraient représenter pour la santé ces fameuses prothèses mammaires. Au Canada, il semble pas qu'on ait mis de côté ces prothèses-là, qu'on les interdise. Alors, ça inquiète plusieurs femmes. Au bout du fil, le docteur Éric Ben-Simon, qui est président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec. Bonjour, docteur Ben-Simon.
Oui, bonjour, M. Lacroix.
Alors, est-ce qu'il y a un risque réel pour la santé? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces fameuses prothèses mammaires texturées?
Écoutez, il y a à peu près une dizaine d'années, on a commencé à voir des cas de ce fameux cancer, en fait, qui n'est pas un cancer du sein. C'est important de le rappeler à vos auditrices parce que c'est tout à fait différent d'un cancer du sein. C'est un cancer qui se forme sur la cicatrice autour de la prothèse. Et effectivement, on a commencé à suivre ça avec grand intérêt dans la communauté scientifique et on s'est aperçu que cette entité n'arrivait exclusivement qu'avec les prothèses texturées. Il faut dire aussi que l'incidence de ce cancer est excessivement rare. On parle à peu près un cas sur 30 000 avec les prothèses de la compagnie Allergan et un cas sur 90 000 ou même plus avec les autres formes de texture parce que toutes les prothèses, en fait, toutes les compagnies ont des textures qui sont différentes.
Ouais.
Au Québec, on utilise très peu de prothèses texturées. On les utilise beaucoup, beaucoup en reconstruction mammaire après des cancers du sein. C'est une prothèse qui nous permet d'avoir de bien meilleurs résultats, surtout en cas de cancer du sein. Donc, c'est une prothèse qui est utilisée beaucoup plus en reconstruction qu'en esthétique.
Mais justement, on peut-tu faire la différence entre une prothèse régulière, si on veut, une prothèse texturée? Qu'est-ce que la prothèse texturée a de plus ou de moins, là?
Alors, imaginez une prothèse texturée avec une surface comme du papier sablé, comme littéralement rugueuse.
Okay.
Donc, il existe des prothèses lisses. C'est ce qui est le plus souvent utilisé dans plus que 90% des cas. Mais ces formes de prothèses texturées permettent d'avoir des formes de prothèses en forme de goutte d'eau, par exemple. Alors, c'est important qu'elles soient un peu rugueuses pour éviter qu'elles se déplacent et qu'elles tournent.
D'accord.
Elles sont également utilisées en cas de cancer, comme je vous ai dit, parce qu'on peut avoir des prothèses qui ne sont pas rondes, cylindriques, comme la fameuse prothèse mammaire qu'on voit, mais la fameuse goutte d'eau qui permet de recréer un peu mieux la forme du sein lorsque le sein a été enlevé.
Donc, il y a une apparence plus naturelle, c'est ce que je comprends.
Dans certains cas, oui.
Ouais.
Dans un cas standard, un cas d'esthétique, la différence est très peu visible ou presque pas. La communauté scientifique s'entend pas. Mais dans les cas où il y a des déformations du sein ou des cas de malformations congénitales ou de cancer, le résultat esthétique est supérieur avec ce type de prothèse.
Bon, est-ce que c'est la fabrication de la prothèse par la compagnie Allergan notamment, là, parce qu'il y a 5 compagnies qui sont visées, de ce que je comprends, l'espèce de recours collectif qu'on est en train d'essayer de monter, ou est-ce que c'est justement la texture qui fait qu'elle devient peut-être plus à risque?
Alors, si on revient à l'analogie du papier sablé, vous avez des papiers à sabler qui sont très rugueux, d'autres qui sont plus minces, plus délicats. Alors, plus la rugosité est élevée, plus le papier sablé est agressif, plus le risque est élevé. Donc, le problème avec la prothèse Allergan, la fameuse BioCell, c'est que sa texture est rugueuse, très rugueuse, très agressive. Alors, ce qu'on voit moins avec les autres types de fabrication d'enveloppe.
Bon, alors, qu'est-ce que vous recommandez aux femmes qui pourraient avoir ce type de prothèse-là? Parce qu'il y en a au Canada là, qui ont cette... Alors, on fait quoi? Est-ce qu'il faut les enlever? Quelle est la marche
alors,
à suivre?
Alors, écoutez, la question, on se l'est posée il y a plusieurs années aussi au sein de la communauté scientifique. On s'est attardé sur la question. On a demandé l'avis à Santé Canada, les médecins. On a demandé l'avis au FDA. Et à date, le FDA et Santé Canada n'ont pas recommandé de changer les prothèses ni de faire un rappel de ces prothèses compte tenu de la rareté des cas.
Ouais.
Il faut dire aussi que si un cas se développe chez une patiente qui est porteuse de ces implants, les symptômes sont assez rapidement visibles, c'est-à-dire que le sein va grossir, il va augmenter de volume en moyenne 6 à 8 ans après la chirurgie. Donc c'est pas quelque chose qui va apparaître tout de suite, ça va prendre en moyenne 6 à 8 ans, parfois un peu moins, parfois un peu plus, et un sein qui augmente de volume, naturellement, ouais. Il faut consulter, puis là, on a un organigramme diagnostique, donc nos collègues, tous les plasticiens au Québec, au Canada, sont très bien formés pour reconnaître ce genre de pathologie si elle devait arriver à une de leurs patientes, et on émet à tous nos congrès, régulièrement, on émet des directives, puis la marche à suivre au cas où, et on recense les cas au Québec, on a un cas à date, recensé et possiblement un deuxième, mais on n'a pas le diagnostic encore. Donc, c'est quand même très, très rare.
Mais on peut comprendre, Dr. Bensimon, que si une femme a ce type de prothèse, compte tenu que d'autres femmes ont eu des ennuis avec ça puis ont développé des maladies graves, on peut comprendre qu'on ne la veuille plus dans son organisme, même si on n'a pas de problème actuellement, n'est-ce pas?
Ah oui, tout à fait. Écoutez, je peux comprendre que les femmes soient inquiètes. Nous, on se fie beaucoup aux recommandations de Santé Canada, bien sûr, et du FDA aux États-Unis. Et à date, tout ce qu'ils ont émis comme recommandation, c'est de surveiller les patientes, puis bien sûr d'aviser les patientes en cas de symptômes de consulter. Ouais. En Europe, l'utilisation des prothèses texturées est très, très, très répandue, beaucoup plus qu'ici en Amérique du Nord, beaucoup plus qu'au Québec, certainement. Et au Québec, on estime que en tout, à la grandeur de la province, on a peut-être 4-5% des patientes qui sont porteuses de prothèses texturées, sur toute la totalité des patientes porteuses d'implants mammaires.
Est-ce que vous en utilisez encore de ces prothèses-là, vous?
Moi, j'ai arrêté de les utiliser il y a à peu près 5-6 ans, quand justement cette chose est arrivée. Mais c'est pas une prothèse que j'ai naturellement beaucoup aimée, parce qu'elle a aussi des désavantages au niveau de la souplesse, etc. Donc, personnellement, j'en ai pas utilisé beaucoup. C'est vraiment même pas 1% dans ma pratique.
Là. Mais c'est pas la première fois qu'on a des ennuis avec certaines prothèses. Là, il y avait des prothèses, entre autres, qui de silicone qui coulaient ou des... est-ce que c'est la pratique démontre que c'est sécuritaire, ces prothèses-là? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque 5 ou 6 ans, il y a une espèce de scandale là, qui éclate et qui vient remettre en question l'utilisation des prothèses mammaires.
Écoutez, oui, vous avez raison. Les prothèses mammaires sont les implants qui ont été le plus étudiés et le plus scrutés, un, de la communauté scientifique, deux, également dans les médias. Hein, ça, c'est une chirurgie qui attire beaucoup l'attention. Ouais. Et écoutez, il n'existe pas d'implant qui est sécuritaire à 100%. Tous les implants présentent des complications. Puis en général, on explique bien à nos patientes les risques de porter des implants. Bien sûr, les ruptures sont des risques qui sont connus, les patientes le savent. Le fait que des implants ne sont pas des implants à vie, il faut les changer, hein. Vous ne pouvez pas les garder
éternellement.
Alors, ils ont une durée de vie. Donc, c'est certain que les problèmes qu'il y avait eu dans les années 90, au début des années 90, c'était des patients qui étaient porteuses, un, d'implants qui coulaient beaucoup, qui étaient d'un silicone très liquide. Deux, ces patientes ne s'étaient pas fait dire qu'il fallait les faire changer. Alors, aujourd'hui, le discours est tout à fait inverse. On a un implant au silicone qui est beaucoup plus cohésif, où cette texture n'est pas liquide à l'intérieur, et on dit à nos patientes de les changer après un certain nombre d'années, certainement. Ouais. Donc, on est beaucoup plus prudent avec ce type d'implant.
Ouais. Est-ce que la science évolue vers des techniques de chirurgie qui pourraient éliminer justement le recours aux implants mammaires? Je sais que pour la reconstitution, souvent après un cancer, il y a certaines chirurgies qui peuvent exister où on utilise peut-être du gras abdominal ou qu'on peut utiliser ailleurs pour refaire le sein. Est-ce que ça, c'est des pratiques qui se développent et qui avancent?
Oui, le gras peut être utilisé, mais le gras ne peut pas remplacer l'implant mammaire parce que le gras ne peut pas être utilisé à grand volume. Hein. D'abord, ça prend beaucoup, beaucoup de gras et les injections de gras présentent aussi leur lot de complications qui ne sont pas négligeables. On assiste à beaucoup d'irrégularités, des kystes de graisse, de la nécrose. Donc, c'est pas une intervention qui est largement utilisée encore parce que, justement, elle a beaucoup de limitations techniques et avec un taux de complications parfois rappelle, plus élevé qu'avec des implants mammaires. Donc, l'implant mammaire, malheureusement, demeure encore le standard dans la chirurgie reconstructive et esthétique du sein. Et on essaye, c'est sûr que de génération en génération, la science essaie d'améliorer les produits. Je pense que il faut être très au fait de ce qui se passe. Là, on a quelque chose qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Puis, je dois le rappeler quand même, je prends la peine de le rappeler, il y a à peu près 600 cas dans le monde sur les 10 dernières années avec les implants texturés, donc le cancer dont vous parlez. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très rare. Vous savez, un risque de développer un cancer du sein, c'est 1 chance sur 8, 1 chance sur 9 dans la population en général. Donc, 1 chance sur 30 000, 1 chance sur 90 000, on est très, très loin. Ouais. Et c'est un cancer qui se traite bien quand il est diagnostiqué. Qui se traite très bien. Donc
ce que vous dites, c'est en fait, il ne faut pas céder à un mouvement de panique. C'est un peu l'appel que vous faites. Mais il y a des femmes qui maintenant demandent justement ou incitent les femmes qui ont ce type de prothèse à s'inscrire au recours collectif. Est-ce qu'on doit recommander de le faire ou de ne pas le faire, à votre avis?
Écoutez, ça, je peux pas me prononcer là-dessus. Je vais laisser les juristes se prononcer là-dessus. Je pense qu'il y a un recours qui a été intenté, comme vous le dites. Nous, notre rôle, c'est vraiment un rôle d'enseignement auprès de nos patientes, de vraiment leur montrer. Nous, écoutez, en général, on parle de ce type de complications, même avec des prothésistes. Ouais. Moi, j'en parle.
Okay. Alors, mais je vais vous poser la question autrement, Dr. Ben-Simon. Si, je connais pas votre vie privée, là. Je sais pas si vous êtes marié ou si vous avez des enfants, etc. Mais si, par exemple, votre fille ou votre épouse avait ce type de prothèse-là, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous recommanderiez de la retirer?
Bon, le problème, c'est que c'est pas simplement la retirer qui peut ramener le risque à zéro. Si une femme est vraiment inquiète et qu'elle veut enlever cette prothèse, il faut l'enlever, mais enlever la cicatrice qui s'est formée autour. Donc, procéder à une capsulectomie, ce qui est un peu plus complexe que simplement changer la prothèse. Ça se fait, on en fait régulièrement, mais c'est une chirurgie un petit peu plus extensive. Moi, pour répondre directement à votre question, je recommanderais simplement vraiment le suivi, l'examen du sein, l'examen annuel, puis au moindre symptôme qu'il y a un sein qui s'élargit ou qui grossit, aussi de consulter son médecin. Alors, des implants texturés, oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je vais définitivement, on va être à l'écoute de voir ce que Santé Canada va recommander, parce qu'on se fie beaucoup, nous autres, comme professionnels, aux recommandations de Santé Canada. On fait des études, la communauté scientifique fait des études, mais à date, on ne recommande pas sur une grande échelle d'enlever les prothèses et de les changer chez ces patientes porteuses de ce type d'implant spécifiquement.
Docteur Ben-Simon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très intéressant.
Merci à vous.
Au revoir. Le docteur Éric Ben-Simon est président de l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec.